Aujourd'hui, c'est suite non désirée et employé renvoyé. Ça va être encore un sacré vendredi cette affaire.
Allez du cinéma ! Allez du cinéma, bonjour !
À tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Un nouveau film Matrix est en chemin sans l'équipe d'origine et sans raison valable. Autant vous dire que ça a un peu tendance à m'énerver, je vous explique pourquoi. À côté de ça, le secteur des VFX au cinéma est en pleine souffrance. Du côté de Montréal, ça licencie un max et ça inquiète les personnes travaillant sur les effets spéciaux des gros blockbusters. Je vais tout vous détailler. Dans la version audio, trois morceaux, un compositeur, on parle du français Georges Delerue, et dans la version vidéo, les trailers qui il ne fallait pas rater cette semaine. Et bien entendu, il y aura la question du public et une partie film de l'auditeur chorale assez spéciale. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites. Vous avez du contenu exclusif sur chaque plateforme, du coup n'hésitez pas à vous abonner aux deux. En plus, on est vendredi, c'est le vendredi que je mets dans la partie podcast notre nouvelle rubrique qui concerne les compositeurs et on écoute de la musique tous ensemble. Bref, écoutez les deux, podcast, YouTube, allez-y. Et si vous n'avez pas envie d'y aller, n'y allez pas. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Vous connaissez le principe. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
Il y a des news qui donnent le smile et il y en a d'autres qui paraissent complètement incompréhensibles. Et la news qui va suivre aurait pu être dans la première case et se retrouve malheureusement dans la deuxième. Connaissez-vous Matrix ? Oui, tout le monde connaît Matrix, évidemment que tout le monde connaît Matrix, mais est-ce que vous avez vu le quatrième film Matrix sorti il y a un peu plus de 2 ans ? Si vous l'avez vu, vous vous trouvez forcément dans l'une des deux cases qui va suivre. Soit celle des gens qui pensent que le film est un immense chef-d'œuvre mal aimé, soit celle des gens qui pensent que c'est tout pour ave. Et personnellement, je fais partie de la première catégorie. Je trouve que Matrix Resurrection, Matrix 4, c'est absolument formidable. Il a vraiment perdu toute crédibilité. Je l'ai déjà fait celle-là, non ? Je crois que je l'ai déjà fait. À l'époque d'ailleurs où il est sorti, où j'en ai fait la critique, on m'a accusé d'avoir une posture, de le défendre seulement parce que tout le monde le défonçait. Ce qui était complètement absurde vu la position dans laquelle je me trouvais quand j'ai vu le film pour la première fois. J'ai vu le film un mois avant sa sortie en projection presse, à un moment où sur internet personne ne parlait du film parce que personne ne l'avait vu. Et dès le moment où je l'ai vu la première fois, j'ai été complètement soufflé par la proposition, que j'ai trouvé absolument remarquable. Parce que c'était un objet d'analyse fascinant, qui réfléchissait en plus sur le fait d'être un objet d'analyse, qui se moquait du fait d'être un objet d'analyse, et qui avait comme principale thématique dans ce quatrième opus de dire au public, vous regardez vraiment trop de films de merde. On vous a libéré de la matrice, pourquoi est-ce que vous avez décidé de votre plein gré d'y retourner délibérément ? Libérez-vous, bon Dieu ! Et à l'époque, j'avais anticipé ça dans ma critique en disant « le public va pas aimer ». Le public va pas aimer parce que ça te met dans une position inconfortable. C'est inconfortable qu'un film te dise droit dans les yeux « tu regardes des films de merde, arrête de consommer de la merde ». Et c'est pas agréable, mais c'est la thèse du film. Et je trouve que le film la délivre de bien belle manière, avec en plus une certaine rigueur technique. C'est-à-dire que je trouve les scènes d'action complètement folles, qui se racontent par le principe du souvenir. T'as la séquence finale où les corps deviennent littéralement de la chair humaine qu'on utilise pour balancer sur les ennemis. C'est assez dingue, il y a des idées dans Matrix 4 qui me fascinent. Et ça, c'est dû au talent de la réalisatrice Lana Wachowski, parce que quand on parle des Wachowski, de toute manière, globalement, c'est souvent des propositions assez radicales qui vont être assez majoritairement rejetées par le public. Je crois que l'exemple le plus, qui me rend le plus fou dans cette histoire, c'est quand elles ont sorti Speed Racer et que le public l'a détesté. Alors que je pense que c'est sûrement un des projets les plus exaltants en termes de Japanimation dans le cinéma américain. C'est à chaque fois des films qui nous invitent dans un autre monde, dans une autre pensée. Et ça peut être pris comme quelque chose d'un peu pédant, mais c'est fait avec une telle bienveillance, avec une telle douceur, avec des films aussi exaltants que ça. J'utilise beaucoup ce terme-là, mais parce que je le pense, c'est vraiment ce que me suscite le cinéma des Wachowski. Et en voyant le quatrième Matrix, tu te demandes, est-ce que c'est un acte isolé ou est-ce que au contraire ça démarre une nouvelle trilogie ? Forcément, tu te le demandes, est-ce qu'il y aura une suite ? En tout cas, c'est pas du tout une idée contre laquelle j'étais. C'est-à-dire que plus de Wachowski, moi ça me dérange jamais. Je monte dans le train sans problème. Et la réponse finale, c'est qu'on va avoir plus de Matrix, mais pas plus de Wachowski. J'explique. Warner a donc annoncé travailler actuellement sur un cinquième film Matrix sans trop donner de détails. Hein. On sait pas du tout, par exemple, si va revenir dans le film les personnages de Neo, de Trinity, ou même les nouveaux qui ont été installés dans le quatrième film et qui sont incarnés par Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, etc. On a aucune idée de si tous ces gens vont revenir. On sait pas qui revient, mais ce qu'on sait, c'est qui revient pas. Lana Wachowski. Faire un film Matrix sans avoir une Wachowski aux commandes, mais Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? D'après l'article de Variety que je vous ai mis en description, elle reste au poste de productrice exécutive. Mais on sait très bien ce que ça veut dire, productrice exécutive. C'est juste que bah t'as bossé sur les films précédents, donc en faisant le nouveau, on va utiliser des assets que t'as participé à créer. Et du coup, bah on te met juste ce poste-là pour que tu touches un chèque, mais t'auras jamais aucun contrôle créatif sur le film. De toute façon, ça se sentait déjà dans le cadre qu'à la base, elle avait pas envie de revenir, que Warner lui avait un peu forcé la main. T'as toute une scène où t'as Jonathan Groff qui discute avec Keanu Reeves et où il lui explique « Oui, là, Warner a demandé à ce qu'on fasse un nouveau Matrix et de toute manière, même si tu veux pas le faire, eh ben ils le feront avec ou sans toi. De toute manière, t'as pas vraiment le choix. »
I can understand why our beloved parent company Warner Brothers has decided to make a sequel to the trilogy.
What?
They informed me they're going to do it with or without us.
I thought they couldn't do that.
Oh, they can.
Mais du coup, on se demande à qui est-ce qu'ils ont bien pu refiler le bébé. Alors, réfléchissons 2-3 secondes ensemble si vous le voulez bien. Comment est-ce qu'ils voient l'univers Matrix, surtout après le quatrième opus et tout le métatexte qui s'inscrivait à l'intérieur? Alors, on a besoin d'un gars, oui, un gars, on a besoin d'un gars qui est capable de traiter un genre, mais de cacher derrière ce premier genre qu'en fait c'est pas tout à fait ce genre-là qu'on va faire. Un type qui a quelques idées visuelles mais qui a rien fait depuis plusieurs années, comme ça il sera très content d'obtenir enfin un job et il fermera sa gueule quand les exécutifs lui feront des notes. Eh ben voilà ce mec, Godard. Alors, rien à voir avec Jean-Luc, Drew Goddard. Drew Goddard, à la base, c'est un scénariste. Scénariste de trucs plutôt efficaces, puisqu'il avait notamment scénarisé en 2008 le long-métrage Cloverfield de Matt Reeves, et en 2015, Seul sur Mars de Ridley Scott. Il a d'ailleurs été nommé aux Oscars pour son scénario de Seul sur Mars. Mais il a réalisé deux films qu'il a écrits aussi, à savoir La cabane dans les bois en 2012 et Saltan à l'hôtel El Royal en 2018. Qui se souvient de ce film? Il avait fait un petit peu de bruit à l'époque, t'avais quand même quelques fans hardcore qui étaient en mode « Mais c'était vachement bien, ça le temps à l'Hôtel Royal !» Mais il a disparu aussi vite qu'il est arrivé. Par contre, son film précédent, La cabane dans les bois, lui est davantage resté dans les esprits parce qu'il dispose d'un concept qui a quand même marqué pas mal de gens. Sans trop vendre la mèche, c'est un film qui démarre vraiment comme le cliché typique du cinéma d'horreur pour ensuite le détourner et justement l'amener vers autre chose. C'est plutôt malin ce qui se passe dans La cabane dans les bois et c'est servi en plus par quelques idées graphiques que je trouve assez intéressante, je pense notamment à la scène des ascenseurs. Voilà, je trouve que cette scène est vraiment une des plus remarquables du long métrage. Donc oui, oui, non, mais oui, c'était très sympa La cabane dans les bois. Mais de là à faire un Matrix, en fait, on aurait dû s'arrêter à un concept simple. Est-ce que les Wachowski veulent refaire un nouveau Matrix? Non? Eh ben on le fait pas. Fin de l'histoire, merci, bonsoir. Mais non, parce que ça c'était trop logique, c'était trop respectueux. Vous savez, chez Warner, quand on n'enterre pas des films au placard pour économiser sur nos impôts, on exploite des licences jusqu'à la mort, c'est un peu notre credo. Donc on fera un cinquième film et on le fera avec ou sans elle, on en a rien à foutre. Et d'ailleurs, dans son communiqué, Warner explique sa décision par ce qui suit. Drew a eu une idée que nous trouvons tous incroyable pour continuer l'univers Matrix et honorer ce que Lana et Lily ont démarré il y a 25 ans, en offrant un point de vue unique basé sur son amour de la série et des personnages. J'en ai vu des gens brasser du vent pour du bullshit marketing vraiment pourri, mais non, là vraiment, c'est un niveau que je trouve extrêmement respectable. Et pareil pour le réalisateur, hein, Drew Goddard, qui lui a ajouté « C'est pas une hyperbole que de dire que Matrix a changé le cinéma et ma vie. Le travail dingue de Lana et Lily m'a inspiré au quotidien, et je suis plus qu'honoré d'avoir la chance de raconter une histoire dans leur monde. » Non mais, si vous aimez tous tant Lana et Lily, fallait peut-être juste dire « Bah c'est elles qui font le film ». Non mais je propose comme ça, moi je file des idées, je suis pas producteur. Ah non mais le problème c'est qu'elles veulent pas, parce qu'en fait elles considèrent que Matrix c'est bon, on a fait le tour, il faut arrêter. C'est-à-dire qu'à l'époque de la projection, de la première projection de Matrix 4, il y avait Lana Wachowski sur le tapis rouge, qui expliquait que à la base elle voulait pas faire le film, sauf que ses parents sont morts et qu'elle a eu envie d'écrire un récit sur deux personnes qui reviennent à la vie, qu'elle a fait ce film avant tout pour sa propre guérison. Et quand on lui demandait sur ce même tapis rouge, du coup est-ce que c'est le départ d'une nouvelle trilogie, elle répondait très franchement et très rapidement non, c'était un coup unique pour un film unique, teinté d'un trauma personnel dans lequel on essayait de retrouver un petit peu de lumière. C'est ça aussi qui faisait toute la magie de ce quatrième volet. Voir une autrice reprendre un projet du passé pour essayer d'aller mieux, tout en y insufflant un véritable point de vue politique et personnel. Tout ce que les auteurs à Hollywood arrivent majoritairement à ne pas faire. Je crache pas sur le Matrix 5 à venir juste par plaisir. J'aurais aimé attendre ce film. Non, je crache dessus parce que son existence même n'a pas de sens. C'est comme si, je sais pas, qui aurait aimé que J.K. Rowling, après le quatrième Harry Potter, arrête, disparaisse de la surface de la planète et laisse la place à quelqu'un d'autre pour faire la suite? Un paquet de gens. Je me rends compte avec du recul que... un paquet de gens. C'est peut-être pas mon meilleur exemple. Matrix est une saga qui porte l'identité des Wachowski. Le quatrième film était l'extension, le prolongement de leur vie à travers ce que la saga avait laissé. Et voir Matrix repris par quelqu'un d'autre, par un studio qui ne réfléchit que par des besoins opportunistes et mercantiles, Bah ouais, je suis désolé, mais ça me fait chier. D'habitude, je dis ça m'interroge, mais là, ça m'interroge pas, juste ça m'énerve. Et comme disait Bob Burnham, bah on arrêtera de frapper ce cheval mort quand il arrêtera de cracher du pognon. C'est misérable ce qui se passe, vraiment, je trouve ça misérable. Et donc, je ne peux que vous encourager, à contrario, à attendre le prochain projet de Lana Wachowski en solo, si tant est qu'il arrive un jour. Personnellement, ce qu'elle pourra faire m'intéresse bien, bien plus que n'importe quelle démarche calculatrice d'un studio qui me saoule de plus en plus. Bon, le sujet suivant, il est pas simple. Je vais essayer d'être clair et concis, mais je vous préviens vraiment, non, ça va pas être simple. On avait parlé à l'époque de la grève, connaissez-vous la grève, tout ça, vous vous en souvenez? On avait parlé à cette époque des conditions de travail des artistes VFX, des gens qui bossent dans le monde des effets spéciaux, de leurs conditions de travail qui s'étaient particulièrement dégradées ces dernières années, et du fait qu'ils voulaient commencer à se syndiquer, ce qui était une première dans le secteur. Et bien qu'on en ait parlé à l'époque, la situation est plus que critique aujourd'hui. Et pour vous la faire comprendre, je vais vous téléporter du côté de ma contrée, du côté du Québec, où se trouvent énormément de studios d'effets spéciaux à destination de gros blockbusters américains. Un des exemples les plus connus, c'est Deneg, une entreprise britannique qui a une branche à Montréal et qui a entre autres travaillé sur globalement tous les plus gros blockbusters récents, c'est-à-dire Godzilla X Kong, Ghostbusters, Dune 2, voilà, rien que ça, ils ont tous bossé dessus. Ils sont pas les seuls à avoir une antenne à Montréal, il y a aussi le groupe Cinesit qui en a une. Alors Cinesit, eux, ils ont bossé sur The Fall Guy qui sort bientôt, mais aussi Aquaman 2 ou des séries Netflix comme The Witcher. Et on va dire les chiffres, vous êtes pas prêts, je vous préviens. D'après un article de Radio-Canada que je vous ai mis en description, 42% des employés du secteur ont perdu leur emploi entre 2022 et 2023. Je répète, quasiment la moitié des gens travaillant dans le monde des effets spéciaux ici ont perdu leur emploi en à peine un an. C'est gigantesque. Dans ce secteur au Québec, dans sa globalité, on est passé de 8000 employés à 4600 employés en une année. Comment ça se fait? Alors déjà, il y a les décisions gouvernementales, notamment celles prises par le Premier ministre du Québec, François Legault, qu'on aime beaucoup, qui a coupé 35% des crédits d'impôt sur les salaires de ce secteur, ce qui donne forcément pas beaucoup envie d'embaucher des gens. Ensuite, il y a les méthodologies employées par les studios. Parce qu'ils te virent pas juste simplement. Non, faut être plus cravin que ça. Faut être plus sournois. En gros, ce qu'on dit aux employés dans ce secteur, c'est petit 1, soit t'acceptes qu'on baisse ton salaire de 20 à 25%, soit petit 2, tu acceptes de travailler plus que 3 jours par semaine au lieu de 5, mais donc tu seras payé que pour 3 jours, soit troisième point, tu prends la porte. Attends, on va quand même pas critiquer les studios de cinéma. Ils leur ont proposé 2 options avant de les virer. C'est quand même énorme, 2 options qui réduisent à peine tes conditions de vie. Franchement, vous êtes des difficiles. Elle est où, votre passion du cinéma, bande de petits privilégiés? Dans l'article, t'as une ancienne employée qui témoigne anonymement, parce que oui, il faut pas témoigner publiquement, sinon tu risques de te faire blacklister dans ce milieu. Et elle dit clairement, j'ai refusé cette réduction de paye, on m'a demandé de changer d'idée, mais je voulais pas être réduite en esclavage dans l'industrie du film, donc j'ai été licenciée. Parce qu'il faut pas oublier que dans ce secteur, les conditions de travail sont d'une dégueulasserie infinie. Dans le même article, l'employé explique qu'elle devait parfois bosser 24 heures de suite à dormir au bureau pour tenir les deadlines impossibles qui lui étaient imposés. On te paye moins, on te force à cravacher et on te crache dessus si jamais t'oses remettre ton statut en question. Bienvenue dans le monde merveilleux des boîtes d'effets spéciaux. Vous savez, quand on se plaint régulièrement de la qualité des effets spéciaux dans les films récents, notamment chez Marvel, c'est pas dû particulièrement aux employés. Enfin, c'est plutôt dû au fait qu'on les fait cravacher comme des chiens et que dans ces conditions-là, fournir le meilleur travail possible, c'est un petit peu compliqué. Alors d'après l'article, ça tente de syndiquer par ici hein, pour mieux encadrer les heures supplémentaires, les négociations de contrat. Ce sera une première du côté du Québec si ça se fait, et ils tentent aussi de faire pareil du côté de Toronto. Et c'est une bonne chose parce que ces personnes ont besoin de protection, ils ont besoin qu'on mette en lumière leur travail, notamment dans des moments un peu plus difficiles. Et si tout le monde se syndique, ça obligera à un moment Hollywood à devoir revoir ses grilles salariales et à mieux traiter ses employés. Ou peut-être pas. Connaissez-vous le principe de la délocalisation? Ah, le capitalisme, c'est super! De plus en plus de studios d'effets spéciaux se montent du côté de l'Inde ou de l'Asie du Sud, un coin où la main-d'œuvre va vachement moins se plaindre, où on va accepter des tarifs beaucoup plus bas et où les notions de syndicats sont clairement pas à l'ordre du jour. Une personne par mail, d'ailleurs, m'a contacté pour me parler de ça en demandant, elle aussi, à rester anonyme, je la salue, en m'expliquant clairement que c'était l'option qui était préconisée actuellement à Hollywood et que ça risquait de s'intensifier dans les années à venir. Je vous parle ici de la situation du Québec, critiques, mais il faut voir ça par un prisme plus large. C'est une situation qui va toucher mondialement les artistes VFX, confrontés à une concurrence payée une misère. Il n'y a pas à se réjouir de voir des gros studios imposer des conditions de travail dégueulasses et des salaires plus que bas, puis ensuite aller filer ça à de la main-d'œuvre pas chère parce que eux au moins ils risquent pas de se plaindre dans la presse. C'est pas juste à Montréal, on est en train de vivre actuellement un véritable shift dans l'industrie concernant le monde des VFX et leurs futures conditions de travail, leur futur emploi. Une situation qui conduit pour l'instant à malmener des salariés dans des conditions de travail absurdes pour apporter de l'argent, toujours au même. Ah, je suis désolé, je suis mon gauchiste de service, mais excusez-moi, c'est la réalité. Oui, mais tu comprends, l'inflation, elle touche aussi les grands patrons de studio. Eh, niquez vos mères. Sans déconner. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous ai mis en description une vidéo YouTube qui résume justement tout l'article de Radio-Canada dont je viens de vous parler. Il y a les témoignages au complet à l'intérieur. C'est des voix qui méritent d'être entendues parce que c'est des voix qui sont menacées. Ce sont des talents qu'on exploite et qui devraient pas avoir à subir une telle injustice. Parce que, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, le monde du cinéma et des blockbusters avec plein d'effets spéciaux. Allez, on avance. Un compositeur, trois morceaux. Dans la partie podcast du vendredi, nous revenons chaque semaine sur un compositeur marquant à travers trois de ses œuvres sélectionnées par mes soins. Pas forcément les plus mémorables, mais certainement celles qui me touchent le plus et permettent surtout de parler de cinéma. Alors installez-vous confortablement, mettez un casque sur vos oreilles et laissez la musique vous emporter. Un compositeur, trois morceaux. Aujourd'hui, Georges Delerue. Actif de 1950 jusqu'à sa mort en 1992, Georges Delerue a composé au cours de sa carrière pour plus de 350 films, conduisant lui-même les orchestres, qu'ils soient français ou internationaux. Passant de Jack Clayton à Truffaut jusqu'à René ou Bertolucci, difficile de ne pas s'arrêter sur une de ses pièces les plus connues, chez Jean-Luc Godard. Dans Le Mépris, sorti en 1963, le scénariste Paul Javal se rend à Rome avec sa femme Camille pour la préparation d'un film. Paul, c'est Michel Piccoli. Camille, c'est Brigitte Bardot. Dès son ouverture, elle interroge son époux sur son désir, citant une à une les parties de son corps. Derrière sa voix, un thème musical résonne. Le thème de Camille. Sur une note plus joyeuse, je me dois de citer un souvenir d'enfance, ma première rencontre avec les compositions de Delerue. Et pour ça, il suffit d'aller vers un acteur comique dans un film resté culte aujourd'hui, Oscar avec Louis de Funès. Triomphant déjà au théâtre avec cette pièce, De Funès y reprend sous la caméra de Molinaro son rôle d'industriel ronchon et acariâtre dont la vie va peu à peu partir en vrille suite à différentes nouvelles plus ou moins désagréables. Alors, il fallait un thème en adéquation, avec de la malice, sautillant comme son personnage principal. Et c'est ainsi qu'avec Jean Marion, dont ce sera le dernier travail, il composa ce morceau, sobrement intitulé « Oscar ». Thank you. difficile de choisir un troisième et dernier morceau pour conclure. On pourrait citer Hiroshima mon amour, Platoon, Préparez vos mouchoirs ou Le dernier métro. Mais parlons avec le cœur. Et plus précisément, du Roi de cœur de Philippe de Broca. Sorti en 1966, on y suit le triste sort d'un soldat anglais en mission pendant la Première Guerre mondiale dans un village français abandonné, où seuls les échappés de l'asile vivent et y ont fait société. Il y a les rires, il y a la joie, il y a l'amour, mais il y a une bombe cachée sous les pavés. Il y a le risque d'une tristesse à venir alors que la fête résonne. Il y a le morceau « Thème du retour à l'asile » qui sublime ce chef-d'œuvre mal aimé. Trois morceaux, c'est peu, mais trois morceaux, c'est déjà beaucoup. C'était trois morceaux de Georges Delru.
Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Eh, vous avez une question sur l'actualité ?» Et si vous en avez une et que j'ai une réponse, eh ben, je la garde pour l'émission et on en parle ici. Le plus simple, si vous voulez poser des questions, c'est de me suivre sur Instagram et de guetter les stories que je poste. Et aujourd'hui, la question, qui est pas vraiment une question d'ailleurs, nous vient de Éloi Fourier 06 qui dit « Dupieux à Cannes, le comeback !» Oui. Et c'est inattendu! Bon, l'info avait leak 24 heures avant sur les réseaux sociaux, je sais pas trop comment d'ailleurs, mais ça a été officialisé juste après. Quentin Dupieux fera l'ouverture du Festival de Cannes cette année avec son nouveau long-métrage. Ce sera avec un film qui s'appelle Le Deuxième Acte, qui s'appelait avant À notre beau métier, et qui comporte à son casting Vincent Lindon, Léa Seydoux, Louis Garrel et Raphaël Quenard. Casting super impressionnant d'ailleurs quand on sait que, à part Quenard, bah, tous les autres comédiens n'ont jamais joué chez Quentin Dupieux. Et j'ai hâte de voir justement un certain phrasé de Dupieux dans la bouche de Vincent Lindon ou de Léa Seydoux. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, les infos qu'on avait à la base sur le film, c'était Dupieux en interview qui décrivait ce long-métrage comme une mise en abîme autour des acteurs qui jouent dans un film nul. Une obsession thématique récurrente chez Quentin Dupieux. C'était déjà présent dans son premier court-métrage non-film qui parlait d'un tournage qui allait légèrement partir en couille. Et c'était encore là dans son précédent, Dali, qui avait plusieurs séquences pour critiquer frontalement le monde du cinéma français. Et pourtant, malgré ça, et ben le pitch qui est présent sur le site du Festival de Cannes n'a absolument rien à voir avec tout ça. Puisque sur le site, on peut lire « Florence veut présenter David, l'homme dont elle est follement amoureuse, à son père Guillaume. Mais David n'est pas attiré par Florence et souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Les quatre personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part. » Et forcément, la question qui se pose, qui est pas vraiment une question parce que je pense que c'est ça, c'est que ce qu'on vient de lire là, c'est pas le pitch du film. C'est le pitch du film dans le film. Putain, les gens qui détestent Dupieux doivent déjà haïr la proposition, alors que moi je suis méga saucé, j'ai trop hâte. Ce qu'on peut noter, c'est que le côté surproductif de Quentin Dupieux a pris quand même une nouvelle vitesse, sachant que ben avec le deuxième acte, ça veut dire que Quentin Dupieux aura sorti 3 films en l'espace de 9 mois. Le mec nous fait une Takashi Miike. Non, c'est formidable, c'est formidable. Fou d'ailleurs quand on sait que ses deux précédents, Yannick et Dali, font partie à mes yeux des meilleurs films de sa carrière. Il y a un nouvel angle par lequel il aborde le cinéma actuellement qui personnellement me passionne. Et puis Quentin Dupieux, qui est un grand fan de Bertrand Blier, il a retrouvé une forme, ouah, je vais utiliser le mot interdit, une forme de maturité dans son écriture. Oui, je sais, c'est le mot interdit. Non mais il avait dit dans une interview justement, il décrivait ce film en disant que c'était un film délirant, ça chie du verbe, si vous voulez bien me pardonner l'expression. C'est peu étonnant donc de le voir choisir un casting qui est très connoté cinéma français à texte. Il y a aussi cette volonté-là dans les comédiens qui ont été choisis pour le deuxième acte. Par contre, le film ne sera pas en compétition. Non, j'espérais qu'il y soit, parce qu'il y a quand même une forme de prestige à être en compétition à Cannes, mais non, c'est le 5e long-métrage que Quentin Dupieux présente à Cannes, et c'est la 5e fois qu'il se retrouve soit dans une compétition annexe, soit hors compétition. En fait, il y avait des rumeurs que l'ouverture de Cannes cette année, ce soit le nouveau film de Jacques Audiard. Mais ce que je pense, c'est que il voulait en ouverture un film qui est en hors compétition, et le film de Jacques Audiard, ils vont le mettre en compète, celui-là. Du coup, bah, ils ont choisi le Dupieux pour pouvoir mettre le Audiard en compète aussi. Et qui dit ouverture, dit sortie simultanée, ce qui veut dire que que le film débarquera à Cannes le 14 mai, mais aussi dans l'intégralité des salles françaises, dans à peine plus d'un mois et demi. Je m'attendais à attendre tellement plus longtemps que ça, je suis trop content. Oui, parce que moi aussi, je verrai le film dès le 14. Eh, le pire podcast, premier sur l'info, vous inquiétez pas, je serai là. Peut-il continuer sur sa lancée? Peut-il faire mieux que Dany? Peut-il faire mieux que Yannick? Je ne sais pas, j'en ai absolument aucune idée. J'aime trop ce réalisateur pour être objectif de toute manière. On aura l'occasion d'en reparler dans très peu d'émissions. Trop bien.
Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe, vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non, et le vendredi, on est vendredi, c'est pas moi qui prends la parole, c'est vous qui prenez la parole. Pour cela, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse lepirepodcastciné@gmail.com pour parler du film que vous voulez d'environ 3 minutes. Et aujourd'hui, la séquence de l'auditeur mérite une introduction d'un autre ordre. J'ai été contacté par François, qui travaille à l'université de Dijon, je salue tous les Dijonnais, et qui, surtout dans cette université, travaille avec des personnes réfugiées pour leur apprendre le français. Alors, je vais pas tout citer, mais on parle ici de réfugiés ukrainiens, afghans, arméniens, rwandais, kurdes, kosovars, éthiopiens. Le prisme est extrêmement large. Et comme exercice récent à ses élèves, il leur a fait faire un film de l'auditeur. Il leur a dit clairement, voilà, présentez un film en 3 minutes en vous enregistrant et après, j'enverrai tous vos audios à Victor. Je trouve la démarche trop cool d'encourager justement des gens à parler de films qui leur tiennent à cœur et du coup, j'avais vraiment très très hâte d'écouter tout ça parce que c'est pas commun quand même comme situation. Et puis pour le coup, j'ai vraiment l'habitude de recevoir des mails d'auditeurs français, européens, donc qui vont baigner quand même dans une culture qui est similaire. Je me posais la question justement si on n'allait pas justement avoir d'autres propositions sur la table. C'était peut-être un peu naïf comme question, mais quel film allait nous parvenir? Donc j'ai essayé ici de vous faire un petit best-of. Je pouvais pas mettre tous les audios parce que j'en ai reçu 14. J'ai vraiment fait des petites sélections au milieu et puis la qualité son était pas ouf sur tous. Bref, je pouvais pas tout diffuser. Mais je tiens quand même à leur rendre hommage à tous, donc je vais citer tous leurs noms. Merci à Alina et Alina, à Alisa, à Anastasia, à Amida, à Lib, à Hossein, à Irina, à Jean, à Moshen, à Nyarzo, à Shkurt, à Gabou et à Valona. Merci beaucoup pour votre travail. Et je suis obligé de mettre un petit coup, hein, je suis désolé, mais dans une France qui est autant embrumée par des discours clichés et réactionnaires sur la question des réfugiés, c'est pas mal justement de faire entendre d'autres voix et de se rendre compte que ces personnes qu'on a remplacées aux infos par des statistiques dans des colonnes ont des amours culturels qui nous sont bien plus proches qu'on ose le croire. J'ai pas tout mis, mais ça parle de Titanic, ça parle de Disney, ça parle de Miyazaki, ça parle de Scorsese, ça parle de Damien Chazelle. C'est un bonheur de les écouter parler de films et entendre l'amour qu'ils ont pour ces longs-métrages. Ça parle même de comédie française. T'as une personne qui a envoyé un audio de 3 minutes pour parler d'à quel point il aimait 10 jours sans maman. Ça m'a rendu ouf. Bref, c'est le film de l'auditeur, des auditeurs, des étudiants du jour.
Le Château ambulant est un film d'animation sorti en 2004. Il appartient au genre drame, fantasy, aventure. Ce film d'animation m'a impressionné par la musique et ses magnifiques paysages. C'est un film que j'ai découvert quand j'étais petite. En le regardant à nouveau plus tard, j'ai découvert encore plus de sens dans cette histoire. J'apprécie les films qui peuvent être interprétés différemment par chaque spectateur.
Rambo 5, la dernière mission, est l'un de mes films préférés. Je l'ai regardé au moins une dizaine de fois. C'est un film d'action, et pour certains pouvant être un peu effrayant, voire épouvantable.
Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un film que j'ai bien aimé. C'est un film qui me rappelle les ambitions que je vais atteindre parfois et je les regarde pour ne me rappeler. Bienvenue dans le monde extravagant de Les Loups de Wall Street.
Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous parler d'un dessin animé qui s'appelle Moulin. Elle est une jeune fille pleine du courage et profondément dévouée à sa famille. Quand son pays est évanoui par les Huns, elle est forcée d'entrer en guerre. On critique l'idée du mariage arrangé qui existe aussi aujourd'hui. Et dans la femme de performant aussi, la place de l'homme et de la femme dans la société, le rôle de chacun. Et une fille, elle peut se dérouler aussi bien qu'un homme.
Bonjour, j'ai choisi de présenter le film Trazidio car il a de nombreux effets positifs sur les étudiantes et leur vie éducative. Trazidio est un film comique dramatique indien sorti en 2009, réalisé par Rajkumar Irani. Le film encourage les étudiants à poursuivre leurs rêves et leurs passions plutôt que de simplement suivre des chemins conventionnels dictés par la société ou la famille. C'est un incontournable pour tous ceux qui recherchent un divertissement intelligent et inspirant.
C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien là où vous êtes et que vous êtes heureux que cette semaine se termine de manière correcte ou au moins passable. C'était une grosse semaine avec des grosses émissions. Merci d'avoir été au rendez-vous. J'espère que tout ça vous a plu. Mais de toute manière, ça ne s'arrête pas parce que le pire podcast cinéma, j'allais oublier quand même le dénominatif le plus important. Le pire podcast cinéma ne s'arrête pas et revient dès lundi pour 3 nouvelles émissions. Est-ce qu'elle est pas belle la vie? Merci à tous de suivre l'émission une nouvelle fois. On se retrouve lundi. Pour l'instant, c'est terminé. C'est... Ah putain, j'ai foiré ma phrase de fin, c'est pas vrai. Ceux qui en veulent encore, allez, bonsoir.
Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.